Ouf, ça l'arsène. Je pourrais faire une introduction à cette prédication sur le texte d'Ésaïe 40, mais en fait, l'introduction a déjà été faite par Charlie, puisque finalement, en fait, la thématique de l'espérance chrétienne a déjà été décrite pendant cette présidence. Et ça, c'est vraiment bien, parce que finalement, c'est quand même une habitude, hein. Vous avez remarqué quand même qu'il y a une sorte d'accord entre la personne qui introduit le culte et la prédication. Souvent, il y a un thème un peu en commun. Et ça, je trouve ça vraiment toujours extraordinaire, parce que du coup, vous êtes un peu dans la thématique. Et nous allons voir comment, en fait, nous croyons dans une parole d'espérance. C'est une grande thématique de la Bible. C'est ce qu'on appelle la théologie biblique. C'est qu'il y a des thèmes comme ça dans la Bible qui vont de la Genèse à l'Apocalypse, qui évoluent petit à petit. Et on peut voir que Dieu est le maître de l'histoire. Avec le groupe d'études bibliques d'Orgères, nous étudions le livre d'Ésaïe. Donc ils ont l'habitude que je dise ça, mais vraiment, oui, dans le livre d'Ésaïe, Dieu est le maître de l'histoire. C'est lui qui contrôle tout. Il est profondément cohérent, et de la Genèse à l'Apocalypse, nous pouvons voir son action, nous pouvons voir sa patte, sa signature, parce qu'il est toujours fidèle à sa parole. Et on va lire ces 11 versets d'Ésaïe 40 pour comprendre finalement l'action de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Ésaïe 40, les versets 1 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Quelqu'un dit, crie ! On répond, que crierai-je ? Toute chair est de l'herbe. Tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le vent du Seigneur souffle dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne. Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force. Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras il rassemblera ses agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de lire les prophètes, c'est normal que ces paroles vous paraissent bizarres. C'est parce que vous n'avez peut-être pas assez lu les livres prophétiques. Mais heureusement, nous allons être guidés. Et donc déjà, je vais vous montrer un plan très simplifié du livre d'Ésaïe. Si nous séparons le livre d'Ésaïe en deux, nous avons les chapitres 1 à 39, où Ésaïe parle aux gens de son temps. Et finalement, il leur dit, détournez-vous des idoles, confiez-vous en Dieu, et vous serez heureux malgré tous les dangers qui vous entourent. Ça va bien se passer, mais arrêtez d'adorer les idoles et confiez-vous dans le seul Dieu qui existe, votre Dieu qui vous a libéré d'Égypte. Et puis, à un moment, il y a une grosse coupure. à partir du chapitre 40, donc les versets que nous venons de lire, Ésaïe prévoit, fait une prophétie prédictive à propos d'un temps qui va se situer environ un siècle et demi après lui, quand le peuple aura été déporté à Babylone. Le peuple a continué de faire n'importe quoi, il n'a pas obéi à l'Éternel, donc l'Éternel l'a exilé sur une terre lointaine, en Babylonie. Et donc là, Ésaïe, à partir du chapitre 40, s'adresse à son peuple, au peuple qui sera exilé un siècle et demi après lui. Voilà, c'est cette période-là qui est décrite ici, et c'est pour ça que ce chapitre débute par « consoler mon peuple ». Ça fait 70 ans peut-être qu'il est en Babylonie, loin de chez lui, que Jérusalem est détruite, qu'il n'y a presque plus de Judéens sur la terre de Juda, sur la terre promise, et donc il faut consoler le peuple. Petite carte pour montrer le périple du peuple. Donc, c'est un peu clair, mais vous voyez avec les flèches. Donc, il y a le départ, il y a le retour, mais vous pouvez vous fier à la flèche, à mon avis, jaune, qui doit être la plus visible. Vous voyez un peu le périple qui a été fait par les exilés. C'est un véritable miracle qu'ils soient revenus de cet exil. Donc voilà, juste pour vous donner un petit élément de contexte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en lisant les 11 premiers versets, mais on peut constater, en lisant ce passage, qu'il y a un message à faire passer. Dans ce passage, il y a 10 occurrences sur la parole et la proclamation. Dans ce passage, on crie, on proclame, on dit. Et donc, nous allons voir ce que ce peuple, pour être consolé, a besoin d'entendre. Ce qu'il faut crier. Nous allons justement un petit peu découper ce passage pour voir ce qu'il y a à crier. Donc là, c'est les deux premiers versets qui s'affichent devant vos yeux pour que vous sachiez de quoi je parle. Les Judéens sont partis en exil à Babylone, ils ne sont pas surpris. Ce n'est pas un hasard. Ils ont trahi l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, je vous l'ai dit, et Ésaïe leur a redit, parce que finalement la fonction première des prophètes, ce n'est pas de prévoir des choses à l'avance, c'est plutôt de rappeler la loi de Moïse. Et donc Ésaïe leur a déjà dit plusieurs fois, arrêtez de vous tourner vers les idoles. Et là, puisqu'ils ont trahi l'alliance de manière répétée, malgré toute la patience de Dieu, eh bien, ils vont finir par être déportés. Ce n'est pas une surprise pour eux, parce que c'est prévu depuis très longtemps. Petit schéma, dans le livre du Deutéronome, du temps de Moïse, du temps de Josué, avant de rentrer en terre promise, dans le livre du Deutéronome, eh bien, il y a déjà une clause qui prévoit l'exil à Babylone. Le Deutéronome, c'est environ le 12e siècle avant notre ère. Et donc, voilà, ici avec Ésaïe, nous sommes au 8e siècle avant notre ère. Et voici ce qui est dit dans le Deutéronome. Deutéronome 29 à partir du verset 23. Donc je vous rappelle, c'est au 12e siècle avant notre ère. Et donc là, dans le Deutéronome, pour vous donner un petit élément de contexte, c'est un peu comme un contrat. Dieu dit, si vous m'obéissez, vous serez bénis sur la terre promise. Si vous me désobéissez, vous allez finir par vous faire expulser de la terre promise. Et ainsi, au verset 23, toutes les nations diront, pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité ce pays ? Détruit par les ennemis. Pourquoi cette grande colère, cette colère ardente? Et on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur, le Dieu de leur père, celle qu'il avait conclue avec eux lorsqu'il les avait fait sortir d'Égypte. Ils sont allés servir d'autres dieux et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne leur avaient pas donné en partage. Alors le Seigneur s'est mis en colère contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre, le livre de Deutéronome. Le Seigneur les a déracinés de leur terre avec colère, avec fureur, avec une grande irritation et les a jetés dans un autre pays. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Quand ils sont en exil, les Judéens se rappellent que cet exil était prévu en cas de désobéissance à la loi de Moïse. Ils ne sont pas surpris. Ça, c'est la sanction. Mais la bonne nouvelle, ici, et c'est avec ces deux premiers versets, c'est que la faute est expiée, le peuple a payé, donc il est temps d'être consolé. Et voici ce qu'on lit encore dans le Deutéronome, ensuite, au chapitre 30 du Deutéronome. « Lorsque toutes ces paroles arriveront sur toi, la bénédiction et la malédiction que j'ai placée devant toi, si parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura banni, tu réfléchis, si tu reviens au Seigneur ton Dieu et si tu l'écoutes de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, exactement comme je te l'ordonne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu rétablira ta situation. Il aura compassion de toi, il te rassemblera encore d'entre tous les peuples où le Seigneur ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais banni aux extrémités du ciel, le Seigneur ton Dieu te rassemblera de là, il te prendra de là. » Au XIIe siècle avant notre ère, Dieu avait déjà prévu l'exil et il avait déjà prévu le retour d'exil. Même si dans ce chapitre 40, nous sommes dans une prophétie prédictive où Ésaïe prévoit un truc qui va se passer un siècle et demi après lui, le retour, l'exil et le retour d'exil, ben finalement, Ésaïe ne décrit que l'accomplissement de la première prédiction de Moïse dans le Deutéronome avant d'entrer en terre promise. Ce que Dieu dit, c'est la grande leçon, ce que Dieu dit et ce qu'il écrit doit s'accomplir. Et justement, c'est le thème de la seconde déclaration. C'est pour ça que j'ai mis un rétroviseur, c'est qu'à chaque fois, en fait, ça rappelle des choses du passé, ces prophéties d'Ésaïe. Les versets 3 à 5. Verset assez connu, normalement, ça doit vous dire quelque chose, on y reviendra tout à l'heure. Parce que Dieu a décidé depuis longtemps que son peuple allait revenir d'exil, eh bien, il le fait. Ça a l'air très très improbable de revenir de plusieurs centaines de kilomètres loin de sa terre. Ça a l'air très très improbable, mais Dieu va le faire. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à un Dieu qui déplace les montagnes, à un Dieu qui élève les vallées, qui écrase les montagnes, qui fait ce qu'il veut en fait. Rien ne peut arrêter son plan. Il fait ce qu'il veut. Et là encore, dans ce passage, nous avons le rappel d'un autre épisode biblique. Et un autre épisode biblique qui est sans cesse répété dans le livre d'Ésaïe, celui de l'Exode. Dieu les précède dans le désert. Dieu fait en sorte que dans ce désert, même s'il y a une mer, même s'il y a une armée qui les poursuit, même si dans ce désert il n'y a rien du tout, Dieu fait en sorte que ce peuple puisse traverser ce désert et qu'il puisse aller en terre promise. Et là, en fait, alors qu'ils sont en exil, ils vont faire un second exode, un exode de l'exil à la terre promise, une terre promise maintenant qu'ils connaissent très bien, mais ils vont faire un second exode de l'exil à la terre promise. Ils vont retourner dans cette terre promise avec Dieu pour berger. Le miracle que Dieu accomplit montre au monde entier sa gloire. Rien ne peut l'arrêter. Et donc, les Judéens vont s'en apercevoir et ils vont pouvoir le glorifier. Mais aussi, les autres peuples vont s'en apercevoir et vont aussi le glorifier. Comme du temps de l'Exode, quand les autres peuples ont peur quand ils voient les victoires du peuple de Dieu sur d'autres armées. Dans les versets 6 à 8 maintenant, qui doivent aussi vous dire quelque chose, parce qu'ils sont aussi cités dans le Nouveau Testament, que toute chair est comme l'herbe, elle sèche, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Nous avons finalement une opposition entre l'histoire humaine qui passe et la parole de Dieu qui s'accomplit toujours et pour toujours. C'est une des grandes thématiques là encore, du titre du livre d'Ésaïe, je vous l'ai déjà dit, Dieu est le maître de l'histoire. Il contrôle les événements, même des événements qui nous paraissent complètement fous, qui nous paraissent complètement impossibles. Il contrôle même ses ennemis. C'est lui qui décide. Pour les humains, cela a pour conséquence de ne pas se fier à ce qu'ils voient immédiatement et qui semble finalement souvent inexorable, parce que souvent, en fait, ce qu'on voit, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. Mais il vaut mieux se fier à ce que Dieu promet. Donc s'extraire de l'immédiateté, qui parfois peut quand même durer une petite génération quand même, mais s'extraire de cette immédiateté et de l'actualité pour se confier dans les promesses du Seigneur. Les situations géopolitiques, l'actualité peut changer tellement rapidement. Mais la parole de Dieu, elle, subsiste éternellement. Enfin, nous avons les versets 9 à 11. Et ici, le peuple libéré, le peuple pardonné, le peuple rassemblé. Je pourrais prendre la voix du général de Gaulle, mais je ne le fais pas. Le peuple libéré, pardonné, rassemblé, ne peut que crier la bonne nouvelle. Dieu est grand. Dieu nous a libérés. Ça rappelle les différents chants qui ont suivi l'Exode et les victoires militaires des Hébreux. Souvent, en fait, quand Dieu libérait son peuple, il y avait des gens qui composaient des chants. Et donc, nous voyons des psaumes. Et même dans l'Exode, nous avons le cantique de Myriam qui chante cela. Dieu a jeté à la mer son armée, l'armée qui nous poursuivait, l'armée qui nous voulait nous faire du mal. Dieu nous a libérés, c'est merveilleux. Il faut le chanter. La bonne réponse à la bonté de l'Éternel, c'est la gratitude. C'est la publication de ses hauts faits, la publication de ses miracles, la proclamation de sa gloire. Ça rejoint le projet initial de Dieu avec Israël. Israël devait être la lumière des nations. Le projet initial, c'est que Dieu, en plaçant ce petit peuple de rien du tout, devait interpeller les nations, parce que les nations autour devaient se dire « Mais ce peuple, ils ont l'air vachement heureux, mais pourquoi sont-ils heureux ?» Mais c'est parce qu'ils ont une loi parfaite donnée par un Dieu parfait, parce que ce Dieu prend soin d'eux. Et donc, normalement, les peuples autour devaient abandonner leurs idoles et adopter le Dieu d'Israël. Le problème, c'est que ce projet a complètement échoué. Au lieu de proclamer ce Dieu aux autres nations, Israël a adopté les faux dieux des autres nations. Ils ont désobéi. Mais ici, ça recommence. Et le dernier verset sous-entend que l'Éternel va redevenir le véritable berger d'un troupeau qui va l'écouter et marcher à sa suite, toujours, comme lors de l'Exode. Même si lors de l'Exode, le peuple, finalement, en fait, râlait beaucoup, mais n'empêche qu'ils étaient obligés de marcher à sa suite. Après avoir regardé dans le rétroviseur, je vous propose de prendre une paire de jumelles. Après avoir regardé en arrière, je vous propose de regarder bien en avant. Et donc, je vous montre aussi un peu, c'est une sorte de frise chronologique bizarre, pour vous montrer, en fait, l'écart entre le Deutéronome, l'époque d'Ésaïe, l'époque de l'exil et l'époque de Jésus. Un jour, du premier siècle en Judée, un homme crie dans le désert. Préparez la voie, préparez le chemin pour le Seigneur. Toute vallée sera comblée, toute montagne sera abaissée. Les voies tortueuses seront, etc., etc. Ça nous rappelle un chant. Au premier siècle, Jean-Baptiste rappelle ces paroles d'Ésaïe. Quand on connaît Ésaïe 40, on se dit finalement que quand Jean-Baptiste proclame ces paroles, eh bien, un événement capital du plan de Dieu va s'accomplir. Et qu'il est probablement question d'un retour d'exil. puisque Ésaïe parlait déjà d'un retour d'exil. Mais qu'est-ce que raconte Jean-Baptiste ? Est-ce qu'il parle d'une libération extraordinaire ? Est-ce qu'il continue aussi de parler d'un pardon des péchés ? Effectivement, Jean-Baptiste annonce qu'un berger va arriver, que ce berger va se constituer un peuple qui le suivra pour un nouvel exode. Cette fois-ci, on n'échappe plus à un pharaon ou à un Nabucodonosor. On ne part plus d'Égypte ou de Babylone. Avec Jésus, on échappe au pouvoir du diable. On quitte le territoire du péché. Et rien, absolument rien, n'a pu empêcher l'œuvre de rédemption, de libération accomplie par Jésus. Ni l'adversité, ni le succès, et surtout, ni l'arrestation et la mort de Jésus n'ont pu stopper ce nouvel exode. Au contraire, ce qu'on aurait pu prendre pour une victoire de l'adversaire, la croix, a été le moyen de notre rachat. Dieu est le maître de l'histoire. Nos péchés sont rachetés car notre châtiment est retombé sur Jésus qui a payé notre facture. Il est le bon berger qui donne sa vie pour sauver ses brebis. Il accomplit la prophétie d'Ésaïe. Ça, c'était le premier témoin, c'était Jean-Baptiste. Mais maintenant, il y a d'autres témoins. Nous aussi, nous pouvons proclamer la bonne nouvelle, l'évangile que nous avons expérimenté. Jésus nous rend heureux. Jésus est notre lumière. L'évangile est une source de joie pour nous. Jésus nous a libérés de notre ancienne manière de vivre et nous assure une relation vivante, vivifiante avec Dieu. Cela pose directement la question de notre joie d'appartenir à Jésus. Vous imaginez quoi comme ton quand on proclame dans Ésaïe « Votre Dieu est là !» Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Vous imaginez quoi comme ton ? Eh bien, c'est un ton de fête. C'est un ton de quand on suit un libérateur. C'est la fierté d'appartenir à ce Dieu-là qui nous assure la victoire. C'est un sentiment presque de toute puissance parce qu'on suit le Tout-Puissant. Tout est possible puisque Dieu a fait un miracle absolument inimaginable en Jésus. C'est être champion du monde, savoir qu'on est les plus forts, pas parce qu'on est les plus forts, mais parce qu'on suit celui qui est le plus fort. Vraiment, si notre témoignage n'est pas plus enjoué que ça, n'est pas aussi enjoué finalement que ça, nous sommes fiers d'appartenir à Jésus. Là, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ou en tout cas, voilà, il faut que nous travaillions cette joie d'appartenir à Jésus. Il faut vraiment que nous relisions peut-être plus les lettres du Nouveau Testament qui nous rappellent l'Évangile. Peut-être qu'il faut plus relire l'Ancien Testament où nous voyons ce Dieu qui fait des miracles tellement grands avec un peuple qui lui désobéit si souvent. Peut-être que nous devrions être un peu moins blasés par la bonne nouvelle, un peu moins vaccinés par le message de l'Évangile que nous entendons peut-être tous les dimanches. Peut-être que nous devrions nous rappeler que connaître Jésus est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Mais en fait, c'est peut-être pas ça le problème. Peut-être que vous êtes extrêmement joyeux et que j'ai pas besoin de vous le rappeler. Si ça se trouve, peut-être que notre témoignage imparfait, c'est peut-être parce qu'on a aussi un tout petit peu peur. Mais là, Jésus nous parle lui aussi de monter sur un endroit élevé pour proclamer. Ce n'est pas une montagne, mais dans Luc 12, voici ce que nous dit Jésus. « Il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, ce que vous aurez chuchoté à l'oreille, dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits en terrasse. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a l'autorité pour jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Il parle de Dieu. « Ne vantons pas moineaux pour deux as. Cependant, pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, quiconque se reconnaît en moi devant les gens, le Fils de l'homme se reconnaîtra aussi en lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les gens sera renié devant les anges de Dieu. » On n'est plus sur une montagne, on est sur les toits en terrasse, mais il faut toujours proclamer son espérance, proclamer ce que Jésus a fait. Jésus ne nie pas le danger du témoignage, le danger de la proclamation. Même si en fait ce danger n'a plus rien à voir avec celui du 1er siècle. Nous sommes en France au 21e siècle. Nous ne risquons pas la mort pour avoir proclamé le message de l'Évangile. Mais comme Ésaïe, Jésus rappelle que Dieu contrôle toutes choses, comme il a toujours tout contrôlé. Nous pouvons lui faire confiance. Il me semble qu'on devrait beaucoup plus avancer en s'appuyant sur les choses extraordinaires que Dieu a fait dans notre vie et dans la Bible, et moins s'arrêter en redoutant des choses fantasmées qui n'ont pas encore eu lieu. Et souvent, on a tendance à moins compter sur les promesses de Dieu et ce qu'il a déjà accompli, et à plus avoir peur de trucs qui n'ont jamais eu lieu, mais parce que juste ça nous fait peur. Et je pense que ce passage dans Ésaïe, et en fait beaucoup de passages dans la Bible, nous incite à nous confier en l'Éternel. Nous confier en l'Éternel d'abord et en ce qu'il a déjà fait. Mais Jésus pointe aussi vers l'avenir et nous rappelle que si nous choisissons de vivre en mode peur, la crainte d'être infidèle à Dieu doit être supérieure à celle du danger qui nous empêche de témoigner. Nous croyons en quelqu'un qui a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, il n'y a plus grand-chose qui peut nous faire peur. Il reviendra en Seigneur Tout-Puissant pour juger les vivants et les morts. Et nous sommes appelés à régner avec lui sur une nouvelle terre. Voilà ce qu'il nous promet. Voilà quel est notre héritage. Voilà quelle est notre identité, notre avenir. C'est sûr, c'est certain, il l'a dit. Si nous ne croyons pas ça, c'est que nous ne le croyons pas. Et c'est problématique. Mais bien sûr, nous devons être surtout lucides par rapport aussi à l'état de notre monde. Le passage « toute chair est comme l'herbe, elle passe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement », ce passage a été utilisé deux fois dans le Nouveau Testament. Et c'est très intéressant. Parce que Jacques et Pierre, qui ont utilisé ce passage d'Ésaïe, ils l'ont utilisé pour que les chrétiens restent lucides à propos de la réalité qu'ils vivent et qui, en fait, finalement, ne pointent pas leur attention vers les mauvaises choses. C'est ce passage-là. Dans 1 Pierre, qui utilise ce passage, Pierre dit: par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, Ésaïe 40, Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage dans Jacques, que le frère pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs, le riche. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante et la plante se dessèche, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche. Il disparaîtra au milieu de ses activités. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Ensuite, il parle du fait que ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais que nous sommes tentés par notre propre péché. Et au verset 16, il reprend « Ne vous laissez pas, donc pas égarer sur ce point, mes chers frères, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. » Voilà deux citations d'Ésaïe 40. Et même si, finalement, ils portent sur des sujets différents, l'amour pour le prochain chez Pierre, tenir dans l'épreuve pour Jacques. Mais à chaque fois, c'est la même logique. Agir et penser en tant que nouvelle création, fruit d'une semence éternelle, fruit de la parole de Dieu. Et non selon la futilité, la vanité de ce monde qui va à sa perte. Nous devons nous tourner vers les promesses de Dieu et non regarder vers ce monde qui va à sa perte. C.S. Lewis disait « Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement démodé. » Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement démodé. Si nous nous attachons à des choses qui ne sont pas appelées à être éternelles, nous sommes démodés. Appartenir à Jésus, c'est vivre autrement, car c'est entrer dans un autre monde, le monde d'après, le meilleur monde possible. Sinon, finalement, si nous ne visons pas ce monde d'après, nous sommes un peu comme la femme de Lot, qui tout en sortant de Sodome, regarde encore vers Sodome, parce qu'elle a un peu des scrupules de quitter cette ville qu'elle aime quand même, et nous savons que ça finit mal pour elle. Je pense que notre opinion profonde, ainsi que notre attitude à propos de notre monde, a de grandes influences sur notre témoignage. Si nous vivons les relations, si nous vivons les épreuves, les questions éthiques, plus ou moins comme nos contemporains, qui sont sans Dieu, je ne vois pas comment notre espérance pourrait transparaître. Je ne vois pas comment nous pourrions être de bons témoins. Si nous ne sommes pas excités par la nouvelle terre, galvanisés par la victoire et le retour de Jésus et convaincus que l'Évangile peut apporter des réponses décisives aux principaux problèmes de nos contemporains, je ne vois pas comment notre témoignage pourrait avoir un véritable impact. Alors, conclusion, lisons plus la Bible. Lisons plus la parole de Dieu pour voir comment les promesses de Dieu se sont accomplies dans les Écritures. Lisons plus la Bible pour toujours être de plus en plus excités par ce plan de Dieu qui s'est mis en place et qui inexorablement va venir vers son accomplissement, notamment avec les lettres du Nouveau Testament. Ainsi, notre émerveillement grandira et le Saint-Esprit nous utilisera. Deux questions que je vous laisse. Quels sont les bienfaits de Dieu que vous avez constatés dans votre vie jusqu'ici? Et je vous rappelle, je vous exhorte à vous en rappeler, à compter les bienfaits de Dieu, à les mettre devant vos yeux, etc., pour que vous puissiez vous appuyer là-dessus, pour faire confiance à Dieu pour l'avenir. Comptez ces bienfaits, rappelez-vous-en régulièrement. Et la deuxième question, c'est dans votre attitude, dans votre caractère. Qu'est-ce qui montre que vous êtes une nouvelle création, fruit de la parole de Dieu. Et ça aussi, nous devons nous interroger sur ce qui change dans notre caractère. Charlie en a parlé en première partie. Et vraiment que nous puissions montrer que Dieu fait des changements en nous, que Dieu nous interpelle. Et même si finalement, ce n'est pas des choses absolument glorieuses, mais même si des fois c'est des choses où, en fait, où nous patinons, mais nous voyons qu'il y a un problème et nous comptons sur Dieu, c'est un témoignage que nous donnons à ceux qui sont autour de nous. Nous avons les mêmes problèmes qu'eux, nous ne sommes pas plus parfaits qu'eux, mais nous comptons sur le Saint-Esprit pour nous guérir. Que ce que notre Dieu nous aide à marcher sur son chemin. Amen. Je vous invite à chanter le chant chaque jour.